Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.
Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, on va parler du prétoire. Mais avant ça, je vais présenter un peu qui y a dans le studio. Salut, moi c'est Kate.
Salut, c'est Pile.
Salut, moi c'est Ellie.
Et à la technique.
Salut, c'est Alix.
Avant de commencer par quelques petites brèves d'actualité, je vais rappeler comment vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter par téléphone pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram, @carapatage. On a une adresse mail, carapatage@riseup.net. Et on a une adresse postale. Vous pouvez nous écrire, c'est au 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. Et pour écouter cette émission et pour écouter toutes les autres émissions des informations qu'on pourra mettre, vous pouvez aller voir sur notre blog carapatage.noblogs.org. Et du coup, on va commencer par quelques brèves d'actualité. Ellie, tu veux commencer à nous parler de l'actualité des projets de construction ?
Oui, alors l'État a ordonné il y a quelques années le plan 15 000 places qui vise à construire 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2027. Du coup, de nombreuses communes se voient attribuer la construction d'une prison par l'Agence pour l'immobilier de la justice. Or, pour des raisons sécuritaires, ou car cela signifierait la disparition de terres agricoles, des élus ne veulent pas d'une prison dans leur commune. Certains se sont réunis samedi 10 juin pour réfléchir et proposer d'autres sites déjà artificialisés pour la construction de ces prisons. En clair, ils ne sont pas contre la construction de prisons, mais pas chez eux. À ce rendez-vous étaient représentées les communes de Noiseau, Sucy-en-Brie, Villecresne, Angers, Crisnoy, Muret. Le point d'orgue de leur week-end, ça a été de planter 36 panneaux sur un terrain privé le long de la D36 qui rejoint Crisnoy. Panneaux qui ont été retirés depuis par la direction départementale des territoires et qui visibilisaient la disparition des terres agricoles. Toujours concernant les nouvelles constructions de prisons, mi-juin, il y a eu un week-end dans le Vaucluse afin de continuer à se retrouver et s'organiser contre les prisons, et notamment celle d'Entraigues-sur-Sorgue, dont les travaux sont censés vraiment commencer en 2024. Ils ont déjà été repoussés une première fois. Il y a déjà eu d'autres week-ends ou temps organisés sur le lieu même où l'État veut construire cette prison. Voici un petit communiqué des actions réalisées pendant ce week-end-là. Pendant le week-end contre la construction d'une nouvelle prison à Entraigues, nous avons profité d'être quelques-uns, quelques-unes, pour aller crier notre solidarité aux personnes prisonnières de la prison du Pontet, juste à côté. Parce que si nous sommes contre la construction de nouvelles prisons, nous sommes aussi pour la destruction de celles qui existent déjà. Le lendemain, on a décidé d'aller bloquer l'entrée des cadres de Spibatignol, entreprise qui n'hésite jamais à participer quand il s'agit de mettre sa pierre à l'édifice de nouvelles prisons. On en a profité pour leur dire que ce n'est pas seulement la prison qu'on veut détruire, mais aussi le monde qui va avec, fait de capitalisme, de culture du viol et de toutes les dominations. Nous nous sommes mis et mises devant le portail avec des banderoles qui disaient « Spi construit des prisons, bloquons-les ». Non à la prison, ni à Entraigues, ni ailleurs, pendant 40 minutes environ. On sait qu'il y a d'autres responsables de la prison dans le coin, on reviendra.
Pile, tu voulais continuer en parlant de ce qui se passe au Baumettes en ce moment ?
Ouais, alors depuis le 5 juin, au quartier d'isolement des Baumettes, il y a sept prisonniers qui sont mis en grève de la faim. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils sont toujours tous en grève de la faim, mais en tout cas, il y en a toujours un qui est en grève de la faim, qui a été transféré d'abord 5 jours plus tard ou quelques jours plus tard à la maison d'arrêt de Grasse, puis hospitalisé depuis quelques jours à l'hôpital nord de Marseille. Il est entouré par des flics, des gardiens surarmés 24 heures sur 24. Et il fait à la fois la grève de la faim et à la fois la grève de la soif. Il a perdu 14 kilos. Et en fait, lui demande d'être en détention parce qu'il est à l'isolement depuis 2020. Isolement prolongé tous les 3 mois. Et malgré les avis médicaux qui disent que ça a des effets néfastes sur sa santé, ainsi que les associations qui le suivent. Et du coup, son frère aussi s'est mis en grève de la faim depuis le 13 juin, en solidarité avec lui. On espère qu'il va s'en sortir, qu'il va pouvoir obtenir ce qu'il demande, et on vous tiendra au courant.
Et du coup, tu voulais continuer aussi en nous donnant des nouvelles de Greg ?
Ouais, alors Greg, c'est une personne qui s'est fait arrêter le 23 mai dernier, à la fin d'un Technival, a priori sur un contrôle pas ciblé. Et donc, il se fait contrôler le 23 mai. Le lendemain, à une centaine de kilomètres de là, il est arrêté par une trentaine de keufs. Il est emmené directement au Comico de Limoges. Et pourquoi ? Parce qu'il y a 3 mandats d'arrêt européens qui ont été donnés par l'Italie depuis mars dernier pour qu'il effectue en Italie des peines d'environ 2 ans et 2 mois. Donc il y a eu une audience peu de temps après son arrestation et il a refusé l'extradition pour pouvoir faire sa peine en France, ce qui n'est pas du tout évident que ça ait lieu. Mais en tout cas, il y a une nouvelle audience demain. Du coup, on en saura plus un peu sur si ça va être possible pour lui ou pas de rester en France. Et du coup, pourquoi il s'est fait, pourquoi ces mandats d'arrêt ? C'est pour des faits qui sont déroulés entre 2013 et 2017. En gros, une altercation avec un journaliste, un pseudo-journaliste FAF pendant une manifestation devant le centre de rétention à Turin. Une altercation avec des flics devant un squat à Turin. Mais aussi pour un port d'armes trouvé dans un véhicule. Et donc voilà, ça fait plusieurs affaires ces dernières années où on voit qu'il y a le recours au mandat d'arrêt européen qui se généralise, que du coup la police et la justice, enfin les polices et les justices européennes collaborent et renforcent leurs liens, quoi. Et ce qui aussi renforce le contrôle et la répression, en particulier des luttes, mais pas que. Et donc un contrôle un peu plus généralisé au niveau européen. Et du coup, il est en tôle à Limoges depuis ce temps-là. Là. C'est une tôle, on en profite pour le dire, mais comme plein de tôles, surpeuplée à 230%, donc les conditions sont quand même assez difficiles, quoi. Bon, un peu comme dans toutes les prisons, mais c'est quand même, ça fait quand même un haut niveau de surpopulation. Et du coup, si vous voulez lui écrire, c'est possible. On mettra le lien avec son adresse sur le blog, mais vous pouvez lui écrire. Alors, c'est Grégoire Poupin. Le numéro d'écrou, c'est 24 587 à la maison d'arrêt de Limoges, 17 bis, place Winston Churchill, 87 032 Limoges, CEDEX 1. Donc voilà, n'hésitez pas à lui écrire, ça lui fera plaisir. Et du coup, je voulais donner une meilleure nouvelle, donc parler de la sortie d'Ivan, qui, on en a déjà parlé dans cette émission, je pense. Il a été incarcéré il y a 1 an. Il a été accusé de 6 incendies de voitures en Île-de-France. Lui, il a donc souvent revendiqué en solidarité avec des prisonniers anarchistes. Et il a, entre autres, été arrêté la dernière voiture pour un incendie dans le 17e à côté d'une ambassade. Et du coup, je vais lire la lettre qu'il a écrite là quand il vient de sortir de prison. Je suis sortie de prison le 12 juin. Le juge d'instruction a émis une ordonnance me plaçant sous contrôle judiciaire. Les restrictions sont interdiction de me rendre en Île-de-France, interdiction de sortir de France métropolitaine, pointage chez les gendarmes une fois par semaine, je dois remettre au greffe du tribunal mon passeport et ma pièce d'identité. La décision de la juge d'instruction de me laisser sortir de prison, assez surprenante au vu de son opposition encore récente à une demande de remise en liberté, est peut-être dû à sa volonté de « couvrir » entre guillemets l'incompétence de la juge des libertés et des détentions et de la détention. En effet, mes avocates ont présenté un recours en cassation
pour un vice de procédure suite à la dernière prolongation de ma détention préventive. L'audience du 24 janvier. Si la cassation avait accepté ce recours, chose probable, elle aurait confirmé que la JLD et son greffe ne savent pas lire. Pour l'instant, l'enquête reste ouverte. La semaine dernière, le 5 juin, l'équipe ELAC de la prison de Villepinte a encore une fois, la sixième en 6 mois, fouillé ma cellule. Affaire renversée, une étagère autoconstruite détruite et mes lettres reçues en vrac, comme si la paix n'avait pas eu déjà le temps de les lire et photocopier à volonté. Ils ont fouillé presque seulement mes affaires, presque sans déranger mon co-détenu. Un maton s'est même permis de faire de l'ironie, en commentant une inscription sur la porte de la cellule. Anarchie, liberté, avec un « n'y compte pas ». Au moment de la sortie, le greffe de la prison m'a remis un gros paquet de courriers, des lettres arrivées depuis mai et celles que j'ai écrites dans la même période, qui traînaient. Il y avait aussi un colis qui est arrivé le 22 juillet 2022, avec des périodiques anarchistes et des livres en italien, et que la prison avait décidé de ne pas me donner. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont été à mes côtés en cette période difficile. Merci à la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali et à la Caisse de Bure pour le soutien économique. Une pensée pour les compas et aussi pour tous les autres qui restent en prison. Crève la tôle, crève l'État, vive l'anarchie. Ivan. Et alors, il y a une adresse pour contact, si jamais on veut écrire, du fond du placard @riseup.net.
Moi, je vais continuer en vous parlant d'une action qui a eu lieu à l'ASFAM. Alors, l'ASFAM, c'est l'association Service Social Familial Migrant. Et pour un peu rapidement présenter l'ASFAM, du coup, l'ASFAM, c'est une association qui intervient notamment dans 4 CRA, à Vincennes, à Metz, à Lille et à Strasbourg, et qui appartient au groupe SOS. Du coup, le groupe SOS, rapidement, il se présente comme le leader de l'entrepreneuriat social en Europe. Et ils se sont notamment spécialisés dans l'enfermement des jeunes. Et du coup, ils gèrent plusieurs centres éducatifs fermés et des centres éducatifs renforcés. Renforcés qui sont en fait des endroits où les mineurs sont enfermés et qui sont à mi-chemin entre le foyer et la tôle et qui sont à chaque fois présentés comme des alternatives à l'incarcération alors que c'est une forme d'incarcération en soi. Et du coup, l'ASFAM, donc cette action à l'ASFAM, ça fait suite au décès de M au CRA de Vincennes le 26 mai, qui a été tabassé par les flics. Et on en parle plus longuement si, dans l'émission de Carapatage d'il y a 2 semaines, l'émission 52. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe dans le CRA de Vincennes. Mais du coup, je vais vous lire un petit extrait du communiqué de l'action. Mercredi 14 juin, des personnes ont fait une petite visite surprise à l'ASFAM, l'association présente au CRA de Vincennes, dans ses locaux du 9e arrondissement de Paris, avec banderoles, tracts, affiches et slogans. L'ASFAM n'a pas eu un mot pour M, retrouvé mort dans sa cellule le 26 mai, après qu'il ait été tapé par les flics. Pas un mot sur les conditions dans lesquelles sont enfermés les retenus. Il faut dire que l'ASFAM touche plus de 5 millions d'euros de subventions pour sa présence dans les CRA. Le prix de son silence, de sa complicité. Surtout ne rien voir, ne rien dire, ne rien faire qui pourrait gêner l'État. Il n'y a pas à dire, l'ASFAM, l'association payée par l'État pour assurer un semblant d'accès au droit à l'intérieur des CRA, sait bien où sont ses intérêts et ne sont clairement pas du côté des retenus. Lorsque nous avons appris la mort de M, l'ASFAM a d'abord voulu nous le cacher en étant comme d'hab au courant de rien. Comme d'hab, car à chaque fois que nous avons contacté pour évoquer des cas de violence policière ou médicale au sein du CRA, nous n'avons obtenu qu'une fin de non-recevoir. Puis l'ASFAM a cherché à se couvrir auprès de l'AFP, parlant de M. La responsable de l'asso a expliqué qu'il s'agissait d'une personne que l'ASFAM n'avait pas rencontrée depuis son placement en rétention, car elle ne s'est pas présentée dans nos bureaux. Puis lorsque nous l'avons sollicitée pour lui présenter notre aide juridique et administrative, cette dernière n'a pas eu un mot pour M, pas un mot sur les conditions dans lesquelles sont enfermés les retenus. Et donc ces derniers jours, plusieurs retenus ont cherché à porter plainte contre les flics, mais ils ont vite compris que l'ASFAM n'allait pas, une fois de plus, les soutenir. Un retenu s'est ainsi pris une vieille remarque moraliste. « Es-tu bien sûr de vouloir porter plainte? Il ne faut pas mal parler à la police. » Donc voilà pour cette action qui a eu lieu à l'ASFAM. Et en parlant du CRA de Vincennes, une meilleure nouvelle, il y a eu une évasion au CRA de Vincennes le 19 juin. Du coup, le 19 juin au soir, Les keufs ont découvert qu'un retenu manquait dans le CRA et il n'a pas été retrouvé pour l'instant. Et on lui souhaite une longue cavale hors du CRA. Et pour continuer sur le CRA de Vincennes, il y a une manifestation qui est organisée et qui partira de Croix-de-Chavaux à Montreuil ce samedi, donc le samedi 24 juin à 18h30. Donc c'est à la fois contre les frontières, contre les CRA, mais aussi contre les foyers, parce qu'à Montreuil, la mairie se vante actuellement de la rénovation de foyers de travailleurs migrants. Pourtant, elle oublie de préciser que ces chantiers s'accompagnent de l'expulsion des habitants sans titre, c'est-à-dire tous celles qui, faute de papiers en règle, sont hébergés dans les foyers sans contrat officiel à leur nom. Et donc, c'est le cas, ça a été le cas au foyer Barra à Montreuil, et c'est ce qui se passe au foyer Roche-Brune et au foyer Branly, où les résidents luttent pour que tout le monde soit relogé après les travaux de rénovation. Du coup, il y aura cette manif-là ce samedi.
Et du coup, j'imagine que tu voulais pas dire contre les foyers, mais contre la restructuration des foyers qui prend pas en compte ses habitantes et ses habitants.
Oui, voilà, exactement.
Et du coup, j'en profite pour ajouter une petite brève pour dire que du coup, il y a l'association Alassane qui s'est créée suite à la mort de Alassane Sangaré. Ouais. Et du coup, c'est le samedi 1er juillet à partir de 13h au parc de la Brèche à Créteil. Et il y aura une tombola, a priori. Bon, j'ai vu l'info sur leur compte Instagram, un barbecue, et ils invitent à venir partager un moment convivial à leur côté, avec aussi d'autres activités.
Et du coup, avant de continuer, on va écouter une petite musique. On va écouter Soyo de Bomba Estéreo. Bien sûr, Carapatage. Donc ce soir, on va parler, dans l'émission de ce soir, on va parler des prétoires. Et du coup, qu'est-ce que c'est un peu que le prétoire, juste pour présenter rapidement. Du coup, en fait, le prétoire, c'est la commission disciplinaire dans la tôle. Donc, en fait, c'est un peu comme un tribunal interne qui va se réunir pour punir les prisonniers, prisonnières, quand ils et elles font un acte qui va contre le règlement intérieur de la tôle. Et ça peut être ne pas nettoyer sa cellule, comme se révolter contre les matons et bloquer la tôle en refusant de remonter de promenade pour des revendications collectives. Comme on va le voir, en fait, les matons, ils vont faire des comptes rendus d'incidents dans ces cas-là, qui sont aussi voilà, des moyens de pression contre les détenus. Et après, il y a une vague enquête disciplinaire. Et ensuite, il y a donc ce moment de commission disciplinaire. Après cette vague enquête, il y a la commission disciplinaire qui se réunit et où il y a notamment le chef d'établissement qui va décider de la sanction et, comme on s'imagine, va toujours donner raison aux matons. Et donc, on va voir voilà, plus en détail comment ça fonctionne pendant l'émission. Et donc, en fait, parler du prétoire, ça veut dire qu'on va aussi parler du mitard, du quartier disciplinaire, parce que le mitard, c'est une des sanctions qui est les plus données au prétoire. Et donc, on verra le mitard, comment ça se passe, et que voilà, c'est des cellules où... Il y a quasiment rien et où il y a souvent les prisonniers, prisonnières se font tabasser, humilier et tuer par les matons. Et donc, en fait, généralement, on va parler de tout ça ce soir et on va commencer en parlant. Tu vas nous parler pile, continuer un peu sur le prétoire et les peines.
Je voulais rajouter que voilà, les peines qui sont. Sanctionnés au prétoire sont aussi souvent des peines qui sont aussi souvent des peines qui sont des choses qui sont aussi jugées à l'extérieur. Du coup elles vont être devant jugées au pénal et ça va donc et la paix et les matons vont pas hésiter pour certaines infractions au règlement intérieur, à rajouter une plainte. Et du coup, on évoquera à la fin de l'émission certaines situations, certains procès auxquels ont dû faire face des prisonniers et des prisonnières. Mais donc, c'est quand même une double peine que les prisonniers et prisonnières se voient infliger, quoi. Le règlement intérieur, il ne va pas être non plus le même selon les différentes prisons. Les sanctions, elles ne vont pas être les mêmes, même si il y a des degrés dans les fautes, on le verra plus tard, enfin, les fautes entre guillemets, hein, qui sont régies par la loi, par des décrets. Mais on peut de toute façon se retrouver au mitard, en prévention, avant de passer au prétoire. Et aussi une faute... disciplinaire, comme ils disent, elle peut aussi être quelque chose qui se passe à l'extérieur de la prison, par exemple pendant une extraction, pendant une hospitalisation ou pendant un transfert. Et donc, une des possibilités, c'est de se retrouver, par exemple, en cellule individuelle et non au mitard, c'est une des sanctions possibles, mais en fait, en fonction des prisons, du fait de la surpopulation, de toute façon, la majorité des prisons, on va rarement se retrouver en cellule individuelle, en tout cas en maison d'arrêt. Et du coup, les sanctions qui sont mises par la direction, elles vont varier en fonction des directions ou des commandants qui vont présider les prétoires. Et donc, d'une prison à l'autre, mais de même que comme celle devant la justice quoi, à l'extérieur, les peines vont varier. Et si la paix dit que voilà, ce qu'on prend au prétoire, c'est pas une peine, en fait, elle est dans cette histoire, elle est juge, flic, partie et plaignante, quoi. Donc, c'est la même personne qui a écrit le règlement, qui juge aussi, et qui est aussi la personne qui se plaint de la personne, quoi. Vous voyez un peu le... Enfin, ils ont un rôle... ils ont tous les rôles, quoi, disons. Ces différents articles qui régissent le règlement intérieur sont souvent assez vagues. Ce qui permet de laisser assez libre l'interprétation à l'administration et donc une marge de manœuvre assez importante et qui peut recourir en fonction des différents degrés d'infraction commises et des peines, différents types de peines sont
applicable, mais c'est hyper souvent possible pour eux de recourir au mitard. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se fait dans 70% des infractions au règlement. Et donc, par contre, on en reparlera aussi du mitard après, mais souvent, il n'y a pas assez de place au mitard. Et du coup, on peut se retrouver à faire sa peine hyper longtemps après être passé au prétoire. Et là, je voulais dire vite fait, alors c'était l'occasion d'introduire un peu une petite brochure qui s'appelle « Pour l'abolition du mitard », qui va avec un site internet qui essaye de lancer un peu une campagne pour l'abolition du mitard. Et on mettra le lien sur le blog. Mais du coup, dedans, on trouve un petit exemple de pour quelles raisons peut-on aller au mitard. Donc, on peut finir au mitard pour avoir insulté une surveillante, y compris dans une lettre ou dans son journal intime, 20 jours de mitard. Avoir tenté de lancer un mouvement de grève pour protester contre les conditions de travail indignes, 20 à 30 jours de mitard. Avoir essayé de filmer un surveillant en train de frapper une personne détenue, 20 à 30 jours de mitard. Ne pas avoir nettoyé sa cellule, 7 jours de mitard. Avoir pratiqué un jeu interdit par le règlement, 7 jours de mitard.
Et du coup, avant de continuer plus sur ce que c'est le prétoire, on va écouter une petite musique. On va écouter « Le maton te guette » de Passy.
Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête. Pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas. J'ai fait si part dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Pimpon, pimpon. Les flics éclatent, roulent à fond. Bon, mon avocat est clair, mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49-203, j'entre en cellule, des 128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin, 49-204, me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rate. Le trouble est dans ma tête, et le maton mon corps guette. Est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent, et le maton mon corps guette. Est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader, le trouble est dans ma tête et le maton.
Première nuit, matelas pourri, lit superposé, carreaux cassés, les rapaces sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale. Goal, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, de grillage et un barbelé. 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe. J'étouffe dans goulag, la cellule, le stalag, les jours se répètent
et le maton te guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent et le maton te guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête et le maton te guette.
Il suffit d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlant dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de paupières contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule incamée, prends un cachet à chaque gamelle de nouvelles. Un suicidé évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin pactage, libéra pour 49-203.
Ah, pas si t'es sorti.
Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeux et négro. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine, que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas, pas à moi, moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire,
Bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le matin nous guette. Mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent
et le maton te
mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête
et le maton te
guette. J'ai pas ta voix, encore moins la vision. Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion. Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion.
Et le maton te
mon
guette.
Corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison, à tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de hargne, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés. Bois d'Arcy, Onifrène, Fleury, Santé, Nanterre, les Baumettes et les autres zonzons. Parloir, courrier, tourné, c'est la merde, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette.
Oui, quand le maton te guette.
Donc ce soir, on parle dans l'émission, on continue à parler des prétoires qui est donc la commission disciplinaire dans les tôles. Et donc avant de parler un peu du prétoire, je vais commencer par parler un peu des comptes rendus d'incidents. Parce qu'en fait, c'est les comptes rendus d'incidents qui fait qu'après, les personnes se retrouvent devant le prétoire, devant cette commission disciplinaire. Donc en fait, les comptes rendus d'incidents, ça arrive quand... Les comptes rendus d'incidents, c'est quand les matons, notamment, ils écrivent. En fait, les comptes rendus. Désolée. Les comptes rendus d'incidents, ils sont écrits par les matons. Et en fait, c'est quand les détenus auraient commis une faute. Et donc, en fait, ces comptes rendus d'incidents, ils doivent décrire les faits qui auraient été commis par le ou la détenue, le contexte, dire s'il y a des témoins. Et les personnes qui écrivent ce compte rendu d'incident doivent pouvoir être identifiables, que ce soit par leur nom, prénom ou alors par leur matricule quand ils demandent l'anonymat pour leur prétendue sécurité. Et donc en fait, ce CRI, après qu'il y ait eu un CRI, il doit y avoir une enquête qui est faite soit par un maton, soit par un gradé de la paix, et qui doit prouver donc ce qui serait reproché aux détenus dans ce compte-rendu d'incident, et donner en plus des éléments sur la personnalité du détenu, et notamment préciser le risque suicidaire de cette personne dans ce rapport d'enquête. Et on peut se demander pourquoi on demande le risque suicidaire, sachant qu'après, ça n'empêche pas... des gens qui sont suicidaires d'aller au mitard après comme sanction. Et donc en fait, c'est souvent cette même personne qui fait les enquêtes qui fait toutes les enquêtes dans une même tôle. Et en fait, en théorie, pour cette enquête, il peut utiliser les enregistrements des caméras, des retranscriptions de conversations téléphoniques, faire témoigner d'autres personnes. Et c'est obligatoire de faire témoigner le détenu, la détenue, que concerne ce CRI, et lui dire ce qu'il y a dans ce compte-rendu d'incident exactement. Mais en fait, dans la pratique, généralement, ce rapport d'enquête, il repose sur le compte-rendu d'incident qui a été écrit par un maton, et avec deux, trois commentaires sur ce que dit le détenu. Mais la parole des détenus, elle est quasiment inexistante, et ça repose du coup sur ce que disent les matons. Et donc ça fait que en fait la personne qui va faire l'enquête, on peut penser qu'elle va soutenir la version des matons, pas chercher à aller plus loin. Et pour les matons, le fait de mettre des comptes rendus d'incident, c'est aussi un moyen de mettre la pression. Ça peut être un moyen de s'acharner contre certaines personnes qui se révoltent, contre quand il y a des relations de conflit, pour punir les gens qui résistent au maton, qui se révoltent contre eux. Et donc, à la fin de cette enquête, le chef d'établissement, il a le choix entre demander à ce que l'enquête soit plus poussée, mais ce qui arrive en fait quasiment jamais, soit classer sans suite ce compte-rendu d'incident, ou alors faire passer... le détenu ou la détenue devant une commission disciplinaire, et du coup ce fameux prétoire. Et l'auteur du compte-rendu d'incident ou alors la personne qui a enquêté ne peuvent pas siéger dans ce prétoire. Et du coup maintenant, Élie, tu vas nous expliquer plus en détail le prétoire, comment ça fonctionne exactement.
C'est ça. Du coup, le prétoire, qui peut aussi être appelé commission de discipline, c'est le jugement que tu prends si tu es accusé de ne pas avoir respecté une des règles du règlement intérieur de la prison. Il a été instauré par un décret en juin 1842. Et à la base, il a été justifié comme pour lutter contre l'arbitraire. Car il n'y avait pas d'uniformité des sanctions du règlement intérieur. Si j'ai bien compris, t'atterrissais au cachot sans qu'il y ait eu un jugement. Maintenant, c'est super différent et chouette puisque c'est le directeur de la prison qui te juge. Le prisonnier qui va passer au prétoire a 24 heures pour préparer sa défense. Le prisonnier ou la prisonnière. En théorie, c'est possible de demander un renvoi pour se préparer. Pour par exemple demander que d'autres prisonniers, prisonnières soient auditionnés, que les caméras soient regardées, etc. Mais la paix n'est pas l'administration pénitentiaire, elle n'est pas obligée de l'accepter. Il suffit qu'elle considère que cette consultation porte atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes, et le renvoi n'est pas accepté. Super argument fourre-tout concernant la vidéosurveillance quand elle n'est pas à l'avantage des matons. Porter atteinte à la sécurité des personnes et hop, c'est la parole du maton dans le CRI qui compte. En théorie, la personne détenue peut être accompagnée de son avocat au prétoire. Soit celui qui la suit, soit un commis d'office. L'un comme l'autre peuvent être payés à l'aide juridictionnelle, mais au vu du délai de seulement 24 heures avant la commission de discipline et l'éloignement des tôles des villes, peu d'avocats se déplacent au prétoire. Pour info, ils sont payés 88 euros hors taxe pour cette aide juridictionnelle apparemment. Avant de passer au prétoire, si la faute est de premier ou second degré, le prisonnier ou la prisonnière peut déjà être mis au mitard ou en cellule individuelle. C'est le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou un membre du corps de commandement du personnel de surveillance qui peut décider de ça. Avec la surpopulation, il n'y a quasi pas de cellules vides, donc c'est plutôt au mitard que les prisonnières et prisonniers sont mis en attente de leur jugement. C'est censé durer que 2 jours maximum. Mais c'est 2 jours bien longs, puisque le deuxième jour, il se finit à minuit. Et non à l'heure où le prisonnier ou la prisonnière a été mis au mitard. Et en plus, s'il y a un week-end ou un jour férié dans ces 2 jours, il ne compte pas. C'est comme si le week-end ou le jour férié, ils n'existaient pas. Mais le prisonnier ou la prisonnière, pendant ce temps-là, il est au mitard. Le mitard fait... la durée du mitard qui est faite avant le passage au prétoire, elle sera décomptée de la sanction si... dans la sanction au prétoire, il y a du mitard qui est donné. Et du coup, ce qui a l'air logique, c'est que le prisonnier ou la prisonnière, il doit préparer sa défense en étant mitard, et voilà, les conditions, elles ont déjà été dites de commencer là-bas. Et aussi, si en préventive, la faute reprochée, elle est en lien avec le travail dans la prison, on peut te suspendre de cette activité avant de passer au prétoire. C'est-à-dire 8 jours maximum pour les personnes majeures et 3 jours pour les personnes mineures. Voilà, du coup, maintenant, concrètement, comment ça se passe le prétoire ? Du coup, lors du prétoire, il n'est pas possible pour l'accusé d'être accompagné par une autre personne détenue, ou par une personne choisie par lui, ou par elle. Normalement, le prisonnier ou la prisonnière, il a le droit à un interprète. Mais si la paix n'en fournit pas, si l'administration pénitentiaire n'en fournit pas, ça n'annule pas l'audience. Ça peut même être un surveillant qui fait interprète. Faut juste pas qu'il était présent lors de l'incident. Donc c'est vraiment abusé. La commission de discipline... Elle est présidée par le chef d'établissement ou son délégataire. Il y a aussi 2 assesseurs, un qui est choisi par les matons et un qui est extérieur à l'administration pénitentiaire qui manifeste un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des prisons. Souvent, il n'y a pas d'assesseur extérieur. Mais ça ne fait pas qu'il n'y a pas de commission de discipline. De toute façon, à la fin, c'est le chef de la détention qui décide de la sanction. Il n'ira jamais contre ses matons. Okay, maintenant, du coup, je vais vous parler des fautes qui peuvent t'emmener au prétoire. Du coup, les fautes, elles sont triées en 3 niveaux. Le premier degré, c'est les fautes qui sont sanctionnées le plus sévèrement. Du coup, soit les violences commises à l'égard du personnel pénitentiaire, le trafic de stupéfiants au sein du centre pénitentiaire, les dégradations matérielles qui auraient pour but une éventuelle évasion ou d'inciter à des regroupements violents, la rébellion, l'extorsion, la mutinerie. Il y a eu un décret de 2019 qui a ajouté des fautes comme la rébellion et l'extorsion et qui a fait passer des fautes du second degré au premier degré, par exemple la mutinerie. Les fautes du second degré, c'est les agressions verbales contre le personnel, la consommation de produits stupéfiants, le refus de se soumettre à une fouille, refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement. Là aussi, il y a eu un durcissement avec le passage de fautes de troisième degré au deuxième degré. Et enfin, le troisième degré, du coup, c'est ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur, entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation culturelle ou de loisirs, communiquer irrégulièrement avec une autre personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement. Négliger de préserver ou d'entretenir la propriété de sa cellule ou des locaux communs et, ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration. Jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement. Pour les majeurs, une faute de premier degré peut conduire à une sanction de 20 ou 30 jours de mitard. Une faute de deuxième degré peut conduire à une sanction de 14 jours et une faute de troisième degré de 7 jours. Et pour les mineurs, c'est un régime allégé, mais je ne sais pas exactement ça conduit à combien de jours. Et pour de nombreux prisonniers prisonnières, les peines elles peuvent s'enchaîner, c'est-à-dire que c'est possible de faire 30 jours, puis hop, retour en cellule normale et de nouveau placé au mitard pour 30 jours. Voilà.
Du coup, avant de continuer, on écoute peut-être une petite musique et on va écouter Original Tonio de Peau de départ. Non, l'inverse, Peau de départ de Original Tonio.
Sur fond de grève, de mensonges médiatiques pro-Sarko et de matraquage gouvernemental sans trêve. Ils veulent que ceux d'en bas crèvent, la bouche ouverte et pas de façon brève. Y'a rien de joyeux là-bas, vos commissures. Pas de sourire aux lèvres, on rêve de buter le commissaire. J'suis pas un imbécile heureux, indifférent qui rentre pépère, se branler dans son pieu. Le corps, l'esprit de la masse, la populace à la ramasse, plus aucune trace de passage. L'histoire est de retour, bidonville, nouveau paysage. Centre de rétention, fourgon de CRS. Contestation déprimée par des apprentis SS. Ils se croient libres et informés correctement. Détestent les livres assommés comme la plupart des gens. Écrasés sous le poids de la propagande. La télé mort 150 chaînes, ça me fait une belle jambe. Lobotomisé depuis l'enfance, donc pas totalement responsable. Objecteur de croissance, avoir été juge, je plaide coupable. Face à ta justice de classe, des salauds qui s'engraissent. Je n'attends pas de bonne grâce, des bourgeois qui encaissent. Les mêmes qui subissent des coups de crasse. Résiste et tu verras la tôle. Grisonomine et la répression n'est pas un jeu de rôle. Facile de juger, de condamner la politique à l'étranger. De mesurer les taux de participation. De resserrer les taux sur la population. Ils sont fiers de leur système, de leur pensée, de leur économie de marché. De leurs élections ridicules, médiatisées, one-man show politique et débats soi-disant démocratiques. Sphère médiatique, vérité noyée dans les statistiques. Absence de représentativité, minorité manipulée. Le peuple, tu vois, sont des collabos qu'il faut buter. Fusillons-les du premier jusqu'au dernier. Aucune pitié, aucun mérite d'être épargné. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. À les entendre, ça serait le paradis. T'as l'impression qu'ils plaident du haut de leur hypocrisie. À leurs yeux, l'histoire du monde n'est pas une tragédie normale. C'est sur la misère des autres qu'ils se sont enrichis. Appauvrir le tiers-monde, en faire péter les entrailles. Combattants révolutionnaires, militants et canailles. À les entendre, ça serait le paradis. T'as l'impression qu'ils plaident du haut de leur hypocrisie. À leurs yeux, l'histoire du monde n'est pas une tragédie normale. C'est sur la misère des autres qu'ils se sont enrichis. Appauvrir le tiers-monde, en faire péter les entrailles. Combattants révolutionnaires, militants et canailles. Scalpel, apologie de la violence légitime. 2008, la cabine, on reste sur la même ligne. À tous ceux qui résistent, raid. Anarchistes, autonomes, sans papier, mecs de thèse révoltés. On brûle leur démocratie capitaliste. Notre révolte n'a rien de folklorique. La solidarité est une arme. Libérer action directe, libérer Georges Abdallah. Gorra Euskal Herria anarchista. Eso.
Alors, désolé, c'était pas Peau de départ de Original Tonio, mais La violence légitime de Scalpel. Et du coup, là, on a vu comment ça fonctionnait un peu le prétoire. Et je vais continuer sur un peu les peines que tu peux prendre du coup, dans cette commission disciplinaire au sein de la tôle. Donc, en fait, il y a plusieurs sanctions qui sont possibles après ce,
ce passage en commission disciplinaire. Et donc, il y a des sanctions pour les majeurs et pour les mineurs. Et en fait, la plupart des sanctions applicables aux majeurs, elles sont aussi applicables aux mineurs, mais généralement pour des durées moins longues, avec une sanction en plus qui existe pour les mineurs. Donc, c'est une activité de réparation, comme présenter oralement ses excuses, rédiger une lettre d'excuses ou faire un travail de nettoyage de 10 heures maximum. Donc, les sanctions qu'il peut y avoir, donc ça peut être un avertissement. Ça peut être l'exécution d'un travail collectif, par exemple des travaux collectifs de nettoyage, de remise en état ou d'entretien des cellules ou des locaux communs. Ça peut être une interdiction de recevoir de l'argent de l'extérieur pendant une période maximum de 2 mois. Et donc, pendant ces 2 mois, les mandats ou les virements bancaires reçus pendant cette période, ils vont être soit retournés à l'expéditeur, soit à un expéditeur désigné par la personne détenue. Ça peut être aussi la privation pendant une période de 2 mois de pouvoir cantiner tout achat à part des produits d'hygiène, ce qu'il faut pour la correspondance et du tabac. Et donc, mais ça ne peut pas être privé de cantiner des unités de téléphone, par exemple. Et cette privation d'effectuer des achats en cantine, ça ne peut pas entraîner non plus la confiscation de ce qui a été cantiné avant la sanction, mais juste la paix peut retenir les denrées qui vont être pas périssables jusqu'à ce que la sanction prenne fin. Et donc cette sanction pour les mineurs, elle peut durer jusqu'à 15 jours. Donc ensuite, il y a la privation pendant une durée maximum d'un mois de la télévision ou de tout appareil électronique comme la radio, mais aussi les réfrigérateurs, des mini-chaînes et ouais, mais ça peut pas être le téléphone. Et donc ça, c'est donc un mois pour les majeurs et 15 jours pour les mineurs. Ça peut être aussi la privation d'une activité culturelle, sportive ou un loisir pendant une période maximum de 1 mois, 8 jours pour les mineurs. La suspension de la décision de classement dans un emploi ou dans une formation pour 8 jours et 3 jours pour les mineurs de plus de 16 ans. Ça peut être aussi le déclassement d'un emploi ou d'une formation. Donc ça veut dire que on peut plus avoir accès à son emploi ou à la formation, mais ça peut s'appliquer. Avant, ça pouvait s'appliquer que aux personnes dont la faute entre guillemets était liée au travail ou à la formation. Mais depuis 2019, ça peut s'appliquer à tout le monde, quelle que soit la faute qui aurait été commise par la personne. Ouais, toujours. Peut y avoir aussi la suppression de l'accès au parloir, avec ou alors la mise en place d'un dispositif ou de parloir hygiaphone où il y a une séparation, un plexiglas dans le parloir. Et du coup, ça, ça peut être jusqu'à 4 mois. Et par contre, ça, cette sanction, c'est que si la faute qui aurait été commise a été commise pendant un parloir ou pendant une visite. Et donc ensuite, il y a le confinement en cellule individuelle qui est possible jusqu'à 30 jours, notamment pour des violences physiques ou des tentatives de violence contre un maton, un visiteur ou une autre personne détenue. Et aussi depuis 2019 pour rébellion, extorsion avec violence et mutinerie. Mais comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est quand même une sanction qui est peu donnée parce qu'en fait, les tôles sont surpeuplées et que du coup, en fait, il y a rarement une cellule vide à disposition pour ça. Et du coup, généralement, la sanction la plus prisée, ça va être le mitard, le quartier disciplinaire, qui, comme on disait, peut être jusqu'à 30 jours. Et c'est la sanction la plus utilisée. Et donc, en fait, le mitard, ça va être une cellule minuscule, sombre et presque vide, où, en fait, les meubles vont être fixés au sol et il ne va pas y avoir d'activité. Et donc, Pile, tu vas continuer pour nous dire plus en détail un peu, voilà, c'est quoi le mitard et comment ça se passe, le mitard.
Ouais, bah, en tout cas, de dire que c'est un endroit où du coup, t'es plus à la merci de l'administration pénitentiaire, parce que, en fait, les seules interactions que tu peux avoir sont avec les matons, essentiellement, et parfois avec... avec un médecin ou un avocat. Du coup, ça va être réduit à un parloir par semaine et une communication téléphonique par semaine. Et donc, souvent,
les situations, on en reparlera, mais qui mènent au mitard sont des situations qui parfois sont par rapport à ces conditions ou les conditions qu'on vit en prison. Et en fait, on va se retrouver dans des conditions encore pires. Et du coup, qui potentiellement peuvent amener aussi de nouvelles raisons de se révolter, même s'il y en a toujours, mais encore plus. Et donc, peut-être de nouvelles peines de mitard en perspective. Et donc, je voulais vous lire aussi un petit témoignage qu'il y a dans la même brochure dont on a parlé tout à l'heure, qui est pour l'abolition du mitard, et qui parle de la maison d'arrêt de Seyss, et qui a été écrite suite à la mort d'une personne au mitard. Tous ceux qui sont passés par le quartier disciplinaire pourront témoigner des humiliations qu'ils y ont subies, des insultes racistes, des crachats à la figure, des ordres donnés comme si on était moins que des chiens. Là-bas, celui qui a le malheur de la ramener peut finir comme J, pendu. Aucun endroit n'est respecté dans ce mitard. Les promenades ont lieu au bon vouloir des surveillants, et en général, il n'y en a pas. L'accès aux douches nous y est refusé, et il peut se passer 15 jours sans qu'on puisse y aller. Pareil pour l'accès au feu, pour allumer une cigarette. C'est maximum 3 fois par jour, et ils usent de beaucoup de zèle. Il faut presque les supplier. La peur y règne, et y aller est pour nous, et pour chacun d'entre nous, prisonniers, une vraie descente aux enfers. Donc ça, c'est un témoignage du mitard de la maison d'arrêt de Seyss, comme je disais, et où il y a eu deux personnes qui sont mortes en 2018, et je ne sais plus trop, peu de temps après, une autre personne est morte. Mais voilà, il y a aussi, c'est des conditions qui se retrouvent dans plein de mitards, et du coup, il y a un autre témoignage dans cette même brochure de quelqu'un qui était pas mal prisonnier quelques temps à Fleury-Mérogis, mais qui est aussi allé dans d'autres... dans d'autres mitards et dans d'autres prisons, et qui dit que, en fait, à quelques détails près, elles partagent tous le même décor, et que c'est le même cynisme et des matons et le même arbitraire à l'intérieur de ces espaces. Et du coup, on a évoqué du coup à Seyss les morts au mitard, et j'avais envie de vous lire une liste dans cette même brochure de personnes qui sont mortes au quartier d'isolement et au mitard. Je ne sais pas trop si j'ai envie de vous lire cette liste, mais en tout cas, c'est assez touchant et c'est assez intéressant de lire. Et c'est aussi des familles qui ont fait, ou des proches, ou des prisonniers à l'intérieur qui ont fait sortir souvent ces histoires, parce que aussi plein de fois, on n'en entend pas parler. L'AP dit que c'est des suicides et ça passe à la trappe. Et en fait, plein de fois, les personnes qui sont au mitard à côté ou à l'isolement à côté entendent et racontent et vont sortir à l'extérieur pour dire ce qui s'est passé. Par exemple, c'est le cas de Pouridir, qui est mort en septembre 2020 au QD de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Voilà, c'est la même chose pour d'autres personnes, que ce soit à la prison de Fleury-Mérogis, que ce soit à Réau, Amara Fofana, qui a été trouvé mort dans une cellule du QD en 2019. Voilà, on avait un peu envie d'évoquer ces situations-là, mais du coup, on a parlé un peu déjà dans une émission pas mal du suicide en prison et de ce qui sont des 10 suicides en prison qui sont dits comme ça par l'administration pénitentiaire. Du coup, on en a parlé dans l'émission 47. Si vous avez envie de la réécouter, on évoque un peu plus plusieurs personnes et ce qui se passe un peu. Voilà.
Et aussi, par rapport à ça, il y a un film qui est sorti sur Arte, là, bon, qui laisse la parole au maton, au directeur de prison, à des moments, du coup, en vrai, c'est chiant. Mais par contre, du coup, ça parle de 3 personnes qui ont été tuées au mitard. Et donc, il est... et voilà, il s'appelle l'angle... Enfin, je sais pas, si tu mets Arte prison, tu le trouveras, l'angle mort, je crois que c'est ça le titre du documentaire.
Et peut-être aussi sur mitards et quartiers d'isolement. Donc en fait, les mitards et les quartiers d'isolement, c'est deux choses différentes. Le quartier d'isolement, c'est pas théoriquement, c'est pas censé être une sanction. Et en fait, dans le quartier isolement, c'est... en fait, quand t'es au quartier isolement, t'es isolé du reste de la détention. T'as une cour de promenade spéciale. Et en fait, c'est une mesure qui peut être soit sur demande de la personne, soit aussi, en fait, c'est sur décision de la paix, soit c'est pour soi-disant protéger la personne du reste de la détention, soit c'est pour maintenir l'ordre dans la détention, par exemple, pour lutter contre les évasions. Les gens vont être placés au QI, ou des gens qui se révoltent particulièrement, ils vont être placés au QI. Et en fait, c'est une sanction qui se fait... Enfin, c'est sans durée maximale, et c'est renouvelé régulièrement, le placement en quartier d'isolement. Et en fait, dans les faits, donc c'est en fait, voilà, utilisé comme une sanction pour sanctionner certaines personnes. Et en fait, il y a parfois, quand il n'y a plus de place au mitard, les gens peuvent être placés au QI. Ou alors, ça arrive que dans certains cas, quand la procédure disciplinaire, ça ne permet pas de placer au quartier disciplinaire, la paix va trouver le moyen de placer les gens, du coup, plutôt au quartier d'isolement, sous divers motifs très flous, parce qu'il y a quand même des motifs assez vagues pour être placé en quartier d'isolement. Et si vous voulez en savoir plus aussi sur les quartiers d'isolement, on a fait une émission sur les quartiers d'isolement spécifiquement, et donc c'est l'émission 31 que vous pouvez retrouver. On la mettra aussi en lien sur le blog. Et après, un peu pour continuer sur ces sanctions, en fait, il y a des sanctions disciplinaires, mais en fait, ces sanctions disciplinaires, elles vont aussi avoir d'autres effets plus long terme, et notamment, en fait, devant le juge d'application des peines, par le retrait des crédits de réduction de peine ou le retrait de la mesure d'aménagement de peine. Donc, en fait, quand une personne a été condamnée à des sanctions disciplinaires quand elle a été condamnée au mitard, en fait, va y avoir le retrait de ses crédits de réduction de peine. Ce qui fait que, en fait, les crédits de réduction de peine, donc c'était avant 2023, ça représentait 3 mois pour la première année, 2 mois pour la suivante. Et donc, ces temps-là vont être supprimés. Et donc, ça veut dire que les gens, après être passés par le mitard, vont faire toujours plus de prison, vont être enfermés toujours plus longtemps. Dans les tôles. Et en fait, il y a eu une réforme de ces réductions de peine, mais en fait, ça reste la même idée que on considère que tu as une mauvaise conduite, si tu te révoltes, ces nouvelles réductions de peine, elles vont aussi être supprimées après le passage au mitard. Et donc, c'est des réductions de peine qui peuvent être retirées avant qu'elles soient accordées, ou même une fois qu'elles ont été accordées, en fait, on peut les révoquer. Donc, en fait, en cas de mauvaise conduite, ce qu'ils appellent mauvaise conduite, en fait, les réductions de peine octroyées pendant l'année qui suit les réductions de peine qui ont été octroyées, si le détenu va être condamné à des sanctions disciplinaires, en fait, on peut lui enlever ses réductions de peine, et donc ça veut dire qu'il fera plus de temps à la fin de sa peine. Et donc, voilà, c'est une manière qui fait que les gens restent toujours plus... à l'intérieur. Et donc, on voulait continuer cette émission en donnant des exemples un peu plus précis de ce qui peut mener ce qui peut mener au prétoire, mais ce qui peut mener à des peines de mitard. Et notamment, dans ce qui peut mener à des peines de mitard, on voulait commencer par parler de, en fait, se révolter pour avoir des conditions un peu moins pourries en détention, notamment par exemple se révolter contre les fenêtres anti-bruit. Et c'est ce dont tu voulais nous parler, Ellie, sur ces luttes du quotidien.
C'est ça. En fait, depuis 2019, des fenêtres anti-bruit demandées par les riverains de la prison des Baumettes à Marseille ont été installées dans au moins 87 cellules du quartier des femmes et dans 30 cellules du quartier arrivant hommes. En mai 2021, au moment où elles ont été installées, dans au moins une dizaine de cellules du centre de détention des femmes, ces fenêtres ont été cassées par des prisonnières. Elles ont pris 5 à 10 jours de mitard et 330 € d'amende sur leur pécule. Un peu plus d'un an plus tard, 3 détenues des Baumettes ont été sanctionnées par la commission de discipline de l'établissement de 5 jours de quartier disciplinaire, donc de mitard, et 500 € d'amende pour la même chose, c'est-à-dire avoir retiré les fenêtres anti-bruit qui obstruent l'aération de leurs cellules et rendent l'air irrespirable, en particulier en période de forte chaleur. Aussi, ça empêche le yo-yo, c'est-à-dire les échanges d'objets entre prisonniers et prisonnières, et aussi les disputes entre cellules, puisque ça dérange le voisinage, mais c'était pour ça qu'ils avaient mis ces fenêtres anti-bruit.
On imagine que cet été, ça va être pareil, la même galère à l'intérieur, quoi.
Et du coup, peut-être avant de continuer, on va écouter une petite musique. On va écouter Bonne Nouvelle de Virus.
Simple d'esprit, réveil en sursis, 9h de l'après-midi, de plus en plus marre, mais quand je dors pas chez moi, je me lève avec des ch'tards. L'isolement, je m'y suis mis tard, le temps de m'auto-juger sans bien sur les éléments à décharge. Avant, ça allait à peu près, je vivais seulement en marge, puis je me suis mis à compter le nombre de carreaux qu'il y a sur ce carrelage. Avec un peu de chance, je deviendrai barge et fêlé. Je me suis même soupçonné démêlé. Chez nous, on vivait sous-fêlé. Chaque fois qu'on croyait entendre frapper, c'était toujours la télé. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue d'insulter les avions. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue de ressentir des tensions. Complètement paumé, je me bouffe encore des coins de placard. Ne sors me promener que pour embrasser mes remparts. Mes forces de retenir mes rares visiteurs, jusqu'à offrir un peu de tabac au gars qui est venu relever le compteur. M'arrive de bouffer avant 19h, de prendre 2-3 douches par semaine. Et quand je trouve pas le sommeil, je double ma peine. Donc je fais des pompes, faute de mieux, je baisse le sol ou je me purge sur les pages de pub d'un magazine qui colle. Est-ce que tu préfères qu'il caille ou que ça pue? Moi je m'en fous, j'ai mouru. Dans les deux cas je m'habitue. Bref, mon cœur attend des nouvelles du greffe. Déjà au collège, un surveillant fut surpris que je l'appelle chef. Ai-je bien entendu rester croupir? Je te jure qu'au fond du trou, on y reste. Tant qu'on s'imagine que c'était pire. Que tout ne tient qu'à un yo-yo. Le voisin fait ses travaux et moi je colle mon oreille au tuyau. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue d'insulter les avions. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue de ressentir des tensions. Avec des barreaux, une blonde avec une boule à zéro, je trouve ça beau. J'aime que mon état se rapproche d'un ciel plutôt gris pâle. Je peux me relaxer à huis clos, je ne culpabilise pas. Ressasser dans les deux sens, coincé dans un sas où ta date de naissance pourrait bien être le mot de passe. Bah ouais, même le temps commence à se faire chier. On m'a enfermé une fois, depuis je vis comme si j'étais recherché. À l'ombre d'un contre-jour, dans quelques 9 mètres carrés qui donnent sur la cour. Et un mur de briques rouges, et un mur de briques rouges, et un mur de briques rouges. T'es là pour quoi? T'es là pour quoi? T'es là pour quoi?
Donc ce soir, on continue à parler du prétoire qui est la commission disciplinaire. Et donc juste avant la musique, on était en train de parler de parler plus en détail d'exemples de ce qui fait que qu'on va au mitard, qu'on prend une peine de mitard devant cette commission disciplinaire. Et donc moi je vais parler maintenant de ce que des prisonniers, prisonnières vont faire, qui vont au mitard, mais c'est aussi en fait pour obtenir des transferts de tôle. Et donc je voulais parler d'une première personne qui était détenue au CD de Mont-de-Marsan en 2020 et qui exigeait un rapprochement familial. Il voulait être rapproché de Toulouse. Et en fait, comme la paix refusait son transfert, il refusait de réintégrer... sa cellule à la fin des promenades, ce qui fait qu'en fait, généralement, quand les détenus refusent de réintégrer leur cellule, ils vont être envoyés après, ils vont prendre une peine de mitard de quartier disciplinaire. Et donc, en fait, lui, il refusait de rentrer dans sa cellule pour être envoyé au QD avec d'autres personnes. Il faisait ça avec d'autres prisonniers qui aussi portaient ensemble ce refus de rentrer en cellule et qui étaient eux aussi envoyés au QD. Et en fait, il faisait ça pour bloquer le mitard. Et en fait, c'est une stratégie de bloquer le mitard, ce qui fait que toutes les cellules du mitard vont être envoyées et que ça vont être occupées. Et qu'en fait, ça va priver les matons, la direction de la prison, d'un outil de pression qui est central quand même, comme on pouvait le voir un peu tout au long de l'émission, que le mitard, c'est quand même un élément central de punition, de mise sous pression des détenus. Et qu'en fait, en occupant toutes ces cellules du mitard, ils espéraient obtenir leur transfert comme ça. Et donc voilà, pour le rendre inutilisable. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler aussi de ces stratégies de lutte pour essayer d'obtenir ici un transfert à Toulouse. Et je voulais parler un peu aussi d'un autre exemple. Donc en fait là, c'est les exemples que je prends, c'est des lettres qui ont été écrites à l'envolée. Et on pourra mettre les lettres plus complètes sur le blog. Donc une autre lettre qui avait été envoyée à l'envolée pour raconter ce qui se passait dans un autre centre de détention, donc c'était en 2020, c'était au centre de détention de Neuvic en Dordogne, où en fait plusieurs prisonniers avaient été transférés dans cette prison, donc c'était un transfert disciplinaire vers cette prison, ce qui fait qu'ils étaient tous éloignés de leurs proches, donc ils demandaient à être transférés à nouveau. Et donc plusieurs aussi ont décidé de bloquer le mitard pendant des semaines en refusant de réintégrer leur cellule pour être envoyé au mitard. Et une fois qu'ils sortaient du mitard, refusaient de remonter leur cellule pour être envoyé au mitard, et ainsi de suite. Et donc, un des prisonniers longue peine qui a fait ça, raconte qu'il a été placé au quartier d'isolement suite à ces nombreux blocages de mitard, mais avec la promesse apparemment qu'il allait obtenir son transfert en centrale. Mais il n'y a pas de... On ne sait pas si cette soi-disant promesse du chef d'établissement a été tenue, mais voilà, c'était un peu pour parler de ces stratégies-là avec le mitard. Et Pauline, toi, tu vas nous parler plutôt des blocages aussi qui, en fait, font que les gens prennent du mitard aussi.
Ouais, carrément. Je vais pas parler de plein d'exemples, mais un des exemples un peu significatifs, c'était c'est pas forcément vraiment sur que le mitard, mais donc pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup de révoltes et de refus de monter en promenade, de nombreux blocages de cours pour réclamer des mesures sanitaires, mais aussi contre la suppression des parloirs, des activités, et aussi pour plus de libération. Voilà, alors qu'au même moment, en Italie et dans d'autres pays, il y avait eu de nombreuses révoltes dans les prisons. Et un des exemples, c'était à la centrale du Zerche, qui en partie a été détruite. Et suite à cette destruction, donc il y a eu des transferts, mais aussi beaucoup de transferts disciplinaires, donc qui est une forme de punition qui n'est pas dans les peines prévues par
par le règlement, mais qui en fait est une peine en soi, parce qu'on se retrouve éloigné de sa formation, les liens qu'on avait tissés, ses proches surtout, souvent. Et donc voilà. Et donc ces personnes ont eu de nombreux transferts disciplinaires, et en fait elles se sont retrouvées dans différentes aussi tôles, et lors les procès, parce que du coup on imagine qu'elles ont été placées peut-être à l'isolement pour certaines en arrivant dans ces nouvelles tôles. Et passer au prétoire peut-être, et mise au mitard, et ensuite on sait pas trop, et ensuite les procès ont lieu dans les chaque juridiction de la prison où ils étaient transférés, et non pas jugés collectivement vers Userche, quoi, mais individuellement seuls à côté de là où ils étaient enfermés. Et du coup, c'était un peu aussi, ça permet de faire un peu le lien avec ce qu'on disait au tout début. C'est que souvent, une peine au prétoire va ensuite se poursuivre, peut se poursuivre au pénal, et rajoute une peine de prison supplémentaire. De fait, on arrive devant le tribunal déjà sous écrou. C'est la parole des matons ou de l'administration pénitentiaire contre les prisonniers, prisonnières dans la plupart de ces procès. Et donc, ce sont deux types et deux choses qui s'ajoutent. Donc, il y a les peines internes, les peines qui sont pas forcément, qui ne rajoutent pas de temps d'incarcération, on a parlé des remises de peine. Et ensuite, il y a les peines qui sont prises à l'extérieur, mais qui le sont pendant l'incarcération et qui rajoutent des années de prison. Et du coup, Élie, tu voulais nous expliquer un petit peu plus. Cette situation de double peine, quoi, disons.
Ouais, en fait, ce que je vais juste dire, c'est parler un peu d'un terme qui s'appelle les peines nosocomiales. Parce que du coup, la pile a dit, donc les peines internes, c'est quand tu es en prison et que tu prends une sanction qui est liée au fait que tu es en prison. Mais sinon, il y a un autre terme qui est porté par l'Observatoire international des prisons, qui s'appelle les peines nosocomiales. Et du coup, là, c'est comme à l'hôpital, si tu rentres avec une maladie pour t'y faire soigner et que tu ressors avec une autre maladie que tu as chopée à l'hôpital, les peines nosocomiales, c'est les peines qui rallongent ta peine au pénal pour des faits qui ont été commis en prison. Voilà, et du coup, c'était juste pour parler de ces termes-là.
Et moi, un peu, du coup, on parlait de judiciarisation de certaines peines et du fait que, en fait, ça a fait que les gens sont condamnés aussi au pénal, et je voulais un peu donner. Parler un peu du cas de Fabrice Borromée, pour qui c'est le cas, en fait, qui est rentré. Lui, il est rentré en prison pour une peine de 8 ans, et maintenant, il a 28 ans à faire. Et c'est en fait parce que ce temps s'est rajouté aussi parce qu'il s'est rebellé au sein de la prison. Parce qu'en fait, comme beaucoup de prisonniers qui viennent des dom-toms, en fait, on l'a envoyé faire sa peine de prison en métropole, loin de ses proches. Et en fait, lui, depuis ce transfert en métropole, depuis 2011, il demande à être transféré en Guadeloupe pour être plus proche de sa famille et pour pas être isolé en France. Mais l'administration pénitentiaire, elle refuse son transfert. Et du coup, pour se faire entendre, il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Et donc, il a pris en otage un maton à Condé-sur-Sarthe, et puis après il a une autre fois à la centrale de Arles aussi, pour essayer de se faire entendre par l'administration pénitentiaire pour pouvoir parler de sa situation. Et en fait, les seules réponses à ça, ça a été d'être envoyé au quartier d'isolement, et d'être transféré très régulièrement, des transferts disciplinaires très régulièrement à chaque fois dans des quartiers d'isolement. Et non, ce qui fait qu'après, après ces prises d'otages qu'il y a eu là, et puis après, il y en a eu une autre en septembre 2015 à Vendin-le-Vieil, où là, c'est le directeur c'est le directeur aussi, parce qu'en fait, ce directeur lui avait fait miroiter un peu une sortie de l'isolement, lui avait dit qu'il sortirait du quartier d'isolement où il était déjà, du coup, depuis 3 ans et demi. Et en fait, finalement, le directeur a changé d'avis et lui a annoncé. Et lui a annoncé comme ça son changement d'avis. Et du coup, Fabrice l'a retenu pendant 2 heures pour pouvoir exprimer ses revendications. Et en fait, suite à ce qui a été jugé comme des prises d'otages, des faits de violence, il a été condamné à des peines de prison qui, du coup, se sont rajoutées à ses 8 ans d'entrée, ce qui fait que il est toujours en prison encore aujourd'hui.
Et du coup, juste pour revenir sur ces transferts, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais souvent c'est encore plus une punition quand tu te retrouves, t'es emprisonné en Guadeloupe ou en Martinique et on t'envoie en France métropolitaine, alors encore plus loin et même de manière démesurée, loin de tes proches, quoi. Et d'ailleurs, souvent, en fait, ce que fait l'AP en Guadeloupe ou en Martinique, c'est de proposer aussi, en plus, au-delà du transfert disciplinaire, de proposer aux gens de venir en prison métropole parce que les conditions sont meilleures et d'encourager les gens à venir, et ce qui est vraiment assez ouf, quoi. Mm-hmm. Ce que ça peut impliquer après sur le quotidien et être éloigné de ses proches.
Je pense que on a fini ce qu'on voulait dire ce soir sur le prétoire. Et sur le mitard, la commission disciplinaire. Bonne soirée.
Ouais, retrouvez-nous aussi sur Instagram.
Et il y aura pas d'émission pendant l'été, mais il y aura des rediffusions qui seront peut-être les premiers et troisièmes mercredis du mois. Mais en attendant, oui, vous pouvez nous écrire, aller sur notre blog, écouter les émissions passées. Donc c'est Carapatage. Noblogs.org.
Et vous pourrez sûrement, on mettra une petite annonce du programme de l'été et quand est-ce qu'on reprend les émissions en direct sur le blog. Et vous pouvez nous écrire par courrier.
C'est vrai, au 4 Villa Stendhal, 75020 Paris, et aussi sur notre adresse mail carapatage@riseup.net. Bonne soirée, bon courage. Bon courage à ceux qui sont à l'intérieur.
Et en grève de la faim. Bonne soirée.
Salut.
Et on va essayer de passer original Tonio, pot de départ. Bon, on a...
Solo dans une rue d'Asmara, ça fait longtemps que j'ai cessé d'espérer qu'un jour mon futur passe par là. Pas de travail, la dalle grave, cavalcade, matraquage, par passage, un enfant seul au milieu du tas de cadavres. Nos élites prennent nos ailes et se taillent en traite. Notre espérance de vie est inférieure à votre âge de départ en retraite. Ici t'es pas d'accord, c'est une rafale de verre. Quand des idées traversent la tête, vaut mieux se barrer avant qu'une balle ne fasse de même. On a que des cercueils pour leader, impossible d'avoir l'air ravi quand tu viens d'une terre aride sur laquelle y'a que les coups qui pleuvent. De la part des milices d'Isaïas qui se privatisent de beau temps, exécution de nos darons, kidnapping de nos temples, silence complice de l'OTAN. Ouais, sous ma mine, imagine le volcan. Bah ouais, j'ai plus le choix, faut que je démarre. Je quitte la ville, puis l'Afrique, mise à terre par la dynastie de vos banques. Plus le temps d'attendre que l'orage passe. Bah ouais, faut que je démarre, j'frôle les balles. L'alarme à l'œil, y'aura pas d'autre départ. Besoin de renaître ailleurs, mais c'est pas sans regret.
J'aurais voulu devenir ce rebelle dont le maître a peur.
Plus le temps d'attendre que l'orage passe, faut que je démarre. Y'aura pas trop de départ, besoin de renaître ailleurs. Mais c'est pas sans regret que je taille. But I know it. But I know it. Périple est lancé, Asmara, Khartoum, terrible est le danger. Épuisé d'entrée, on nous attaque partout. Mais le défi est tenté, je veux voir autre chose que des types éventrés. Faut voir dans quelles conditions la mienne, j'ai décidé de changer. En marge de vos doctrines minables, à chaque instant j'engage le pronostic vital. Le cœur plein de détermination, quelques estimations, combien arriveront à destination. Entassés à 40 dans des petits camions, le but c'est d'embarquer patiemment dans les pires cales. On s'approche de Zouara, côte libyenne oxygène. Mais ça reste horrible d'être coincé dans ce trou à rats. Tous ces coups de matraque, ça me dégoûte pas mal. J'garde la foi, il est pas né celui qui me fera perdre le goût de la life. On doit être plus de 200 à rêver fort, changer tout ça à tous les. J'm'amène ta Rome, mais avant y'a Lampedusa. Plus le
temps d'attendre que l'orage passe pas. Ouais, faut que je démarche, frôle les balles. L'alarme à l'œil, y'aura pas de taux de départ. Besoin de renaître ailleurs, mais c'est pas sans regret que j'taille.
J'aurais voulu devenir rebelle dont le maître a peur.
Plus le temps d'attendre que l'orage passe, faut que je démarche. Y'aura pas de taux de départ. Besoin de renaître ailleurs, mais c'est pas sans regret que j'taille. Laissez-moi passer pour qu'ensuite je me transforme. Déjà près de 8 mois que je cours sans titre de transport. Sans titre de transport. Laissez-moi passer pour qu'ensuite je me transforme. Déjà près de 8 mois que je cours sans titre de transport. Sans titre de transport. Et si on inversait les rôles, est-ce qu'on vous laisserait tomber? Nos enfants s'échouent sur les plages où chaque été vous vous faites bronzer. C'est pas les grands de ce monde qui me fileront un gilet de sauvetage. Pour autant d'arrivants, combien de milliers de naufrages? Érythrée, Afghanistan, Libye, Palestine, Somalie, Kurdistan, Syrie. Même la Colombie perd ses plumes. La moitié finit sa route dans un cimetière d'écume. Plus le temps d'attendre que l'orage passe pas. Ouais, faut que je démarche, frôle les balles. L'alarme à l'œil, y'aura pas de taux de départ. Besoin de renaître ailleurs, mais c'est pas sans regret que j'taille.
J'aurais voulu devenir ce rebelle dont le maître a peur.
Plus le temps d'attendre que l'orage passe, faut que je démarche. Y'aura pas de taux de départ. Besoin de renaître ailleurs, mais c'est pas sans regret que j'taille. But I know.
Un naufrage en Méditerranée aurait fait près de 400 morts d'après les témoignages de survivants. Les victimes sont des migrants clandestins partis des côtes libyennes. Ils étaient plus de 500 à bord de l'embarcation et les gardes-côtes n'ont secouru jusque-là que 150 personnes. Les autres risquent fort d'avoir péri en mer, ce qui constituerait un des drames les plus importants de ces derniers mois.
Trying to keep home uptight, and it's hard to explain.
Carapatage, une émission contre toutes les cages.
Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur.
En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage contre toutes les cages.